Merci Koun pour la lecture. Content de vous retrouver d'une certaine manière, les amis. Et avant qu'on se tourne vers la parole, j'aimerais juste rajouter un encouragement fraternel par rapport à vendredi prochain, l'événement d'invitation qu'on a, qui se passera donc à 20h sur YouTube. Un encouragement à inviter autour de vous. Donc c'est juste un lien. Voilà, l'événement se passera en direct sur YouTube. Juste un lien à diffuser autour de vous. Et dans un sens, il y a encore moins de barrières pour les gens de venir que de venir dans un endroit physique, de se déplacer dans le froid, le soir, un vendredi. Juste d'être chez eux et de pouvoir profiter pendant 45 minutes. Le tout sera environ 45 minutes d'un événement dynamique, un peu interactif, mais aussi avec un message pour partager l'espoir de Noël et la bonne nouvelle de Jésus. Donc je vous encourage à réfléchir, peut-être cet après-midi, en début de semaine, qui est-ce que vous allez pouvoir inviter pour participer à cet événement. Et avec ceci, on se tourne vers la prédication de la parole. Donc, on a lu ce passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 5 du chapitre 3. On est bientôt au bout de notre série de prédications sur 2 Thessaloniciens. Et avant d'aller plus loin, je vous encourage à prier à nouveau pour demander l'aide de Dieu, l'aide du Seigneur dans tout ça. Prions. Notre Dieu, merci pour ta bonté et ta générosité envers nous. Merci pour ta grâce, merci parce que tu es fidèle à tes promesses. Merci parce que tu veux nous parler au travers de ta parole. Et on prie que ce soit le cas encore ce matin, que dans ta grâce et par l'œuvre de ton esprit en moi et en nous, en chacun de nous, dans nos cœurs, que tu nous aides à saisir le sens de ta parole, ce qu'elle signifie pour nos vies, et que tu nous aides à voir combien tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui prend bien soin de nous, et que ça vaut le coup de continuer la course chrétienne, même dans des temps troublés. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. La question à laquelle répond notre passage, on pourrait dire, ce serait comment avoir une foi qui est stable dans des temps qui sont troublés? Comment avoir une foi stable dans des temps troublés? C'est le moins qu'on puisse dire, je pense que cette année 2020 a été particulièrement troublée. Qui aurait pu imaginer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé? Et alors que l'année touche à sa fin, ça n'a pas l'air d'être terminé de sitôt. Encore pour plusieurs semaines, plusieurs mois, un confinement qui dure et qui devient très vite pesant. Une solitude qui est difficile à vivre, une incertitude dans laquelle on vit et une impossibilité de se projeter pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver une vie normale. Et même l'espoir de retrouver une vie normale comme avant se réduit peu à peu. Je lisais cette semaine un article qui parlait du moral qui faisait souffrir les gens en ce moment. Et l'introduction de l'article disait ceci. Les personnes âgées souffrent, les jeunes subissent, les salariés s'inquiètent, les patrons dépriment, certains saturent, d'autres endurent. Masque sur le visage, peur au ventre, morale dans les chaussettes. Tous subissent en tout cas les effets pernicieux d'une menace sanitaire dont l'omniprésence devient oppressante. Peut-être qu'on vit ça de manière différente les uns et les autres, mais il faut reconnaître que ces paroles sont assez vraies. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouverait là-dedans, dans un confinement qui devient pesant, dans des temps qui sont troublés. Rien que cette semaine, je parlais avec plusieurs personnes en France et en Belgique, par téléphone ou à distance, mais qui disaient combien les derniers mois étaient vraiment difficiles pour eux, difficiles pour leur foi, parce qu'ils étaient l'accumulation de toutes ces choses, mais aussi privés de la communion fraternelle, privés de la vie de l'Église. Alors comment avoir une foi qui est stable dans des temps qui sont troublés? On peut dire aussi que ces Thessaloniciens à qui Paul et ses amis écrivent cette lettre, ils vivaient aussi des temps qui étaient troubles et des temps difficiles. Ils étaient persécutés pour leur foi, comme on l'avait vu depuis le tout début qu'ils sont chrétiens. Certains dans l'Église vivaient dans la confusion par rapport au retour de Jésus. Juste avant notre passage, on a vu ça la semaine dernière, Paul a parlé de l'impiété qui allait venir, qui allait grandir, et de l'homme impie qui allait arriver. Il y avait tant de raisons d'être troublés, d'être instables. D'autant plus qu'il s'agit de jeunes chrétiens qui auraient pu se demander face à tout ça, mais est-ce qu'on va tenir bon? Et comment est-ce qu'on va pouvoir tenir bon? Bien, Paul écrit ici pour les rassurer et les encourager. Il écrit pour les rassurer qu'ils sont entre de bonnes mains, que Dieu prend bien soin d'eux et qu'il les fera tenir jusqu'au bout. Mais il écrit aussi pour les encourager à tenir bon, à ne pas lâcher et à rester actifs dans la course chrétienne. Et ce que ces versets disent à ces chrétiens de Thessalonique et à nous dans ces temps troublés que l'on vit, c'est « Vous êtes entre de bonnes mains, donc tenez ferme. Vous êtes entre de bonnes mains, donc tenez ferme. » Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, donc en deux temps. D'abord, « Vous êtes entre de bonnes mains » et ensuite « Tenez ferme » en voyant des différents éléments de ce passage qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc d'abord, vous êtes entre de bonnes mains. Ce passage contraste vraiment avec ce qui vient avant. Il était question dans le début du chapitre 2 du mystère de l'impiété qui allait grandir, de la séduction, de l'égarement qui allait avoir lieu. Dans le verset juste avant notre passage, au verset 11 ou un petit peu avant notre passage, il est question, en fait au verset 11 et 12, de ceux qui seront jugés, de ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice. Mais après tout ceci, voilà ce que Paul dit. Chapitre 2, verset 13. « Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Paul veut rassurer ces chrétiens. Vous êtes du bon côté. Vous ne faites pas partie de ces gens-là qui n'ont pas cru à la vérité. Vous avez eu foi en la vérité, comme on le voit à la fin du verset 13. Vous n'avez donc pas à craindre tout ce qui vient. Vous n'avez pas à craindre de ne pas tenir bon. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes en sécurité. Et il ne s'agit pas ici juste d'une tape dans le dos, comme si on dirait à quelqu'un « Oh, mais ça va aller, tu sais ?» Alors qu'en fait, on n'est pas super rassuré, on ne sait pas trop comment la personne va faire pour s'en sortir. Non, ces versets nous montrent qu'en tant que chrétiens, et ces chrétiens-là, et nous-mêmes en tant que chrétiens, on est vraiment en sécurité. On est entre de bonnes mains. On est dans les mains puissantes de Dieu. Et c'est comme un peu si on part en vacances. Et quand on part en vacances, on va laisser ses plantes. Alors, moi, je ne suis pas très spécialiste de plantes. Mais justement, on va laisser ses plantes à quelqu'un qui est compétent là-dedans. Et si on laisse ses plantes à une amie qui est fleuriste, par exemple, ben, on n'a rien à craindre. Ou si on a un problème d'ordinateur, on va confier son ordinateur à un ami qui est informaticien. Ben, dans ces cas-là non plus, on n'a rien à craindre. On est entre de bonnes mains. C'est un peu ça ici, mais de manière encore plus importante, bien sûr, qu'une simple plante ou qu'un ordinateur. Ces versets nous montrent, et on va voir ça maintenant, que dans le passé, dans le présent et dans le futur, on est en tant que chrétien dans les bonnes mains de Dieu. Dans les bonnes mains de Dieu. D'abord, dans le passé, vous êtes en sécurité depuis l'éternité passée, parce que votre salut, c'est Dieu qui a manifesté sa grâce envers vous. Si vous faites partie de ceux qui ont foi en la vérité et pas de ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est en raison de la grâce de Dieu, de son don gratuit, d'un cadeau généreux et immérité. Et c'est ce qu'il est dit dans le verset 13 qu'on a lu. « Car Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Dieu n'avait pas le devoir de sauver qui que ce soit. Le salut, ce n'est pas un dû de sa part, c'est une grâce. Aucun de nous ne méritait, n'aurait pu réclamer quelque chose de la part de Dieu. On l'a tous offensé et rejeté, on a tous péché contre lui. Et pourtant, il a choisi de nous sauver. Il a choisi de nous sauver par pure grâce, en manifestant son amour immérité envers nous. On voit ça dans le verset 16 du chapitre 2. Dieu nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle. Dieu nous a aimés et il a manifesté cet amour en choisissant de nous sauver, de se révéler à nous, d'œuvrer dans nos cœurs par son esprit, comme on l'a vu au verset 13, pour nous rendre saints devant lui. Et si c'est donc lui qui a choisi de faire ça, alors on est entre de bonnes mains. On n'a pas à craindre de ne pas tenir bon. Il sait ce qu'il fait. Mais ces versets montrent également qu'en tant que chrétien, on est en sécurité dans le présent. Et on voit ça avec la prière que Paul fait, les versets 16 et 17 du chapitre 2. Il prie que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. C'est Dieu qui donne la consolation ou l'encouragement, on pourrait dire, et l'affermissement. C'est lui qui permet de tenir bon et qui est là à chaque étape de la vie chrétienne. Ce n'est pas juste que Dieu nous sauve et il oublie ensuite, il nous laisse nous débrouiller par la suite. Non, il est là, il est présent, il est à l'œuvre. Il nous a donné une consolation ou un encouragement éternel. On voit également cette assurance qu'on a en tant que chrétien dans le présent avec le verset 3 du chapitre 3. « Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. » Oui, il y a des hommes insensés et méchants qui vont troubler les progrès de l'Évangile, comme on va le voir plus tard, c'est ce qui est dit juste avant. Oui, le malin, le diable, Satan est à l'œuvre, mais le Seigneur est fidèle. Il nous fera tenir bon. et le fait que l'on va tenir bon dépend de sa fidélité. Parce qu'il est fidèle, alors il nous fera tenir bon. Donc le passé, le présent, mais aussi le futur, on est entre les bonnes mains de Dieu. Le salut chrétien, c'est un peu comme un package où on reçoit tellement de vérités qui sont merveilleuses, qui sont encourageantes, qui accompagnent ce salut et qui deviennent les nôtres. Et on a un aperçu de certaines de ces vérités dans ces versets. Par exemple, l'espérance, où il est parlé au verset 16 du chapitre 2 d'une bonne espérance. Dieu nous a donné une bonne espérance. C'est ça l'espérance qu'on a, quelque chose qui est bon, qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est quelque chose de joyeux, de glorieux, pas le jugement et la condamnation éternelle qu'on méritait, mais la gloire éternelle dans la présence de Jésus pour toujours. Et c'est pour cette finalité-là que Dieu nous a sauvés. On voit ça avec le verset 14, en fait, où il est dit dans ce verset, « C'est à cela aussi qu'il vous a appelé. » Donc ça fait référence à ce qu'on a vu juste avant, le salut, la sanctification de l'esprit, la foi en la vérité. « C'est à cela que Dieu vous a appelé. » Comment est-ce qu'il nous a appelé ? Par notre évangile, donc par la proclamation de l'évangile, mais pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but ultime, le but final, la destination finale du train de la vie chrétienne, c'est la gloire avec Jésus. Comme la ligne d'arrivée après qu'on ait couru un marathon, ou quand on arrive chez soi après un long voyage qui a été inconfortable, où on n'a pas beaucoup dormi, et qu'on arrive enfin à la maison. C'est ça qui nous attend. Oui, maintenant, c'est la souffrance, l'instabilité, les épreuves, le besoin de persévérer. Mais bientôt, tout bientôt, ce sera la gloire, le repos, la joie avec Jésus, pour toujours. C'est dans ce but-là que Dieu nous a appelés à lui, et c'est lui qui nous y amènera. Alors, en parcourant ces versets, on réalise combien c'est un encouragement pour ces chrétiens en ces temps troublés. Oui, persécution, impiété qui grandit, confusion par rapport au retour de Christ, incertitude, doute. Mais rappelez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. De l'éternité passée à l'éternité future, vous êtes entre les mains puissantes de Dieu. Et ces versets sont aussi un encouragement particulièrement profond pour nous dans cette année 2020 qui a été si particulière. Si on y pense, pratiquement tout a changé cette année. La vie de l'Église a changé, tout est passé en virtuel. Le travail a changé, les habitudes au travail pour la plupart des gens. La manière dont on fait ses courses a changé. Les habitudes au sein du foyer ont changé. Les rapports qu'on a les uns avec les autres ont changé. Mais au milieu de tout ça, Dieu n'a pas changé. Il est resté toujours le même. Les vérités qui sont à l'œuvre dans notre vie chrétienne n'ont pas changé. Elles sont toujours les mêmes. Ces vérités passées, présentes et futures qui concernent notre salut, qui concernent la grâce de Dieu envers nous, elles sont tout aussi vraies, tout aussi réelles qu'elles étaient avant cette crise sanitaire, avant tout ce que l'on a vécu cette année. Alors malgré un confinement qui traîne, qui devient pesant, on doit se rappeler, comme le dit ce cantique, « Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. » On est entre ses bonnes mains. Et pour avoir une foi qui est stable dans des temps troublés, on a besoin de le réaliser. Pour vivre l'assurance et le repos, on doit tourner nos yeux vers ses vérités, plutôt que vers des nouvelles qui changent, plutôt que vers des craintes, des inquiétudes, plutôt que d'être replié sur nous-mêmes. On doit être tourné vers ses vérités qui sont présentes dans ce passage. Et quand je pense à la stabilité, quand je pense à le fait d'avoir une foi qui est stable, je pense à un ami avec qui j'ai étudié à l'Institut biblique de Bruxelles pendant 3 ans. Alors certains d'entre vous, vous allez le reconnaître. Il est togolais. Il avait, alors c'était un ami pas de mon âge, hein, il avait l'âge de mon père, mais on était quand même ensemble pendant 3 ans. Et c'était vraiment un encouragement d'être ensemble. Mais vraiment, pour moi, il évoque la stabilité. C'était quelqu'un qui était stable dans sa foi. Il ne se faisait pas trop facilement emporter vers le haut ou vers le bas dans ses émotions en fonction de ce qu'il vivait. Oui, il vivait des situations qui étaient parfois pas faciles et il exerçait dans le passé un rôle pastoral et il rentre bientôt pour continuer cela. Mais malgré tout ça, il continuait à avancer, à faire confiance au Seigneur et à ses promesses, à proclamer et à vivre comme si Dieu est réellement bon et à dire que Dieu était réellement bon envers lui. Il était stable dans sa foi et ça m'a beaucoup impacté de passer quelques temps avec lui. Et c'est une des leçons de ce passage, d'avoir une foi stable dans des temps troublés. Et c'est vrai qu'il faut souligner, avant d'avancer, que ces promesses sont vraies pour ceux qui sont en Christ. pour ceux qui sont pardonnés de leurs péchés. C'est à des chrétiens que Paul écrit, Paul et ses amis écrivent ici. Et donc, si vous nous regardez et que vous n'êtes pas chrétien ou que vous n'avez pas cette foi personnelle en Jésus, on est très heureux que vous soyez là et vous êtes les bienvenus pour assister à ce culte en ligne. Mais j'aimerais vous encourager à considérer davantage la foi chrétienne et en particulier la personne de Jésus pour voir comment vous aussi, vous pouvez être entre les bonnes mains de ce Dieu-là. Vous pouvez avoir le pardon de vos péchés, une relation rétablie avec Dieu et être dans les bonnes mains d'un Dieu de grâce et de compassion plutôt que sous le jugement et la condamnation qu'on mérite tous par nature et dont on a parlé dans les semaines passées. Et en tant que chrétien, ces versets sont aussi un encouragement pour nous pousser à la reconnaissance. C'est là que commence ce passage. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Paul dit, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est presque une obligation, tellement ces vérités à l'œuvre dans la vie des Thessaloniciens sont merveilleuses, sont grandioses. Paul et ses amis, grandioses, Paul et ses amis ne peuvent pas ne pas remercier Dieu pour tout ça. C'est juste la conséquence logique. Et ça aussi, c'est une bonne leçon pour nous en cette période de crise sanitaire, de choisir la reconnaissance plutôt que de se plaindre. Je dois avouer qu'en ce moment, je suis particulièrement enclin à me plaindre. C'est probablement une combinaison entre ma nationalité française et mon caractère humain pécheur. Mais on peut se plaindre du confinement qui dure trop longtemps, se plaindre de certaines règles qui nous paraissent inappropriées, de telle ou telle situation, de tel ou tel comportement des autres, et vraiment noircir le tableau au lieu de fixer nos yeux vers les vérités glorieuses qui sont dans ce passage, au lieu de lever les yeux vers le Seigneur et de le remercier pour sa grâce, pour sa bonté, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est un Dieu si bon, même dans cette pandémie. J'ai besoin, et j'imagine que quelques-uns d'entre vous aussi qui nous regardez, d'apprendre la reconnaissance, d'apprendre que nous sommes entre les bonnes mains de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là dans ce qu'il dit à ses Thessaloniciens. Vous êtes entre les bonnes mains de Dieu, oui, mais ensuite, donc, tenez ferme. Puisque vous êtes entre les bonnes mains de Dieu, alors tenez ferme. Et on voit ça en chapitre 2, verset 15, avec un impératif, un commandement qui est donné. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises. Si Paul a besoin de dire ça, de rappeler ça, c'est parce que ces chrétiens couraient le danger de ne pas tenir ferme, de chanceler. On avait vu cela, en fait, avec le début du chapitre 2 concernant le retour de Jésus, où Paul devait leur dire « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler. » En gros, ne laissez rien d'extérieur vous troubler, en particulier des faux enseignements concernant le retour de Jésus, ici au chapitre 2, mais plutôt tenez ferme, soyez stable, même dans ces temps troublés. Et c'est frappant de voir la raison qu'ils ont de tenir ferme. Au début du verset 15 qu'on a lu, il est dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes. » En gros, c'est relié à ce qu'on a vu juste avant, parce que Dieu est souverain, parce que c'est lui qui vous a choisi, parce que vous êtes entre ses bonnes mains et qu'il vous amènera jusqu'à la gloire future, alors tenez ferme, alors ne lâchez rien. Et on voit ici qu'il n'y a aucune contradiction dans la Bible entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. Les deux sont affirmés pleinement, côte à côte ici, dans ces versets. Paul ne dit pas à ses chrétiens « Dieu est souverain, donc lâchez l'affaire, détendez-vous, vos efforts ne servent à rien ». Non, il leur dit « Puisque Dieu est souverain, puisque vous êtes entre ses bonnes mains, alors continuez à avancer et à vous mettre à l'œuvre ». La logique biblique, c'est de dire « Dieu est souverain, donc nous agissons ». Dieu est souverain, donc nous nous mettons à l'œuvre. Et alors, à quoi ça va ressembler pour ces chrétiens de tenir ferme? Qu'est-ce qu'on devrait entendre par là? On peut voir quelques éléments qui sont mis en avant dans ce passage, trois éléments mis en avant ici. D'abord, il s'agit de rester attaché au bon enseignement. C'est ce qu'on voit dans le verset 15. Demeurez ferme et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Comment est-ce que ces chrétiens doivent trouver la stabilité au milieu de l'incertitude, alors qu'il y a du vent de tous les côtés qui pourrait faire chanceler leur foi? En retenant, en gardant, en s'attachant aux instructions des apôtres. Littéralement, ici, il est question de la tradition qu'ils leur ont transmise. C'est le mot qui est utilisé ici. Et en parlant de tradition ici, il n'est pas question de l'enseignement des hommes, comme on utilise le mot tradition aujourd'hui, mais de l'enseignement qui vient de Dieu. Et il n'est pas question ici non plus, contrairement à la pensée catholique, des enseignements successifs de l'Église au fil du temps, qui porteraient une autorité qui serait égale à la Bible, qui porteraient le dépôt qui vient de Dieu. Non, il est question ici, comme on le voit au verset 14, de notre évangile, dit Paul. L'évangile que lui et ses amis ont proclamé, l'évangile apostolique des apôtres, qui vient de Jésus lui-même et auquel nous avons accès aujourd'hui dans la Bible. C'est là que les apôtres ont mis par écrit l'enseignement apostolique, l'enseignement qui porte l'empreinte de Dieu lui-même. Et donc la fidélité se trouve en restant attaché à cet enseignement-là que l'on trouve dans la Bible, plutôt que de chercher de s'aligner avec une tradition plus tardive que l'Église aurait développée au fil des siècles. Et on voit par cela que la foi chrétienne n'est pas intéressée par la nouveauté, mais par ce qui est ancien. On n'est pas là pour innover, pour apporter des enseignements révolutionnaires, des nouvelles révélations, des nouvelles manières de comprendre Dieu, mais on est là pour s'attacher fermement à la tradition ancienne, à l'enseignement qui nous a été confié et que l'on trouve dans la Bible, ce message qui ne change pas. C'est facile aujourd'hui de courir après la nouveauté. On a tellement de choses et tout ce qu'on a périme si vite. Au bout de quelques mois, ce qui était à la mode est déjà dépassé. Rien que cette semaine, je voyais des photos de l'interface d'iPhone d'il y a 5 ans et ça me paraissait tellement vieux. J'avais l'impression que c'était le 20e siècle alors que c'était il y a juste 5 ans. Ça change tellement vite. Mais il y a le danger du coup d'appliquer la même logique à la foi chrétienne. On veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de frais. On va courir après les dernières tendances sur YouTube, se jeter sur le dernier best-seller chrétien, suivre le dernier pasteur star qui est à la mode. Mais plutôt que de faire tout ça, on doit se demander, est-ce que l'enseignement que je reçois m'aide à rester attaché à ce qui est ancien, à ce que Dieu a déjà révélé, à sa parole que l'on trouve dans la Bible? C'est ça la source de toute vérité. Si on veut tenir ferme, il faut rester attaché au bon enseignement. Mais ensuite, pour tenir ferme, il faut continuer à mettre sa foi à l'œuvre, Paul nous dit ici. On voit ça avec le verset 17 du chapitre 2, où il dit, il prie que Dieu console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. L'encouragement pour lequel Paul prie pour ses chrétiens, ce n'est pas juste un encouragement qui est là pour rester centré sur soi-même, un peu comme un bol de glace qu'on mangerait devant la télé en déprimant quand on ne va pas bien. Non, Paul prie pour que ses chrétiens soient encouragés, oui, mais actifs, qu'ils soient affermis en toute œuvre bonne et en toute parole bonne. Il prie pour que leur foi chrétienne continue à produire du fruit, qu'ils puissent continuer à avoir des paroles et des œuvres qui soient empreintes de l'Évangile, qui glorifient Dieu, même dans la souffrance. Et on apprend ici que les temps troublés ne sont pas des excuses pour arrêter de faire le bien, au contraire. Et je pense qu'on doit reconnaître que le confinement qui dure, c'est un danger pour nos vies chrétiennes. Le danger de ralentir, alors que la vie normale est à l'arrêt, on pourrait dire, il y a le danger de mettre sa vie chrétienne en pause. Et Steve nous rappelait ça il y a quelques semaines, je pense. De plus être si attentif que ça à nos progrès dans la foi, à notre lutte contre tel ou tel péché, à la pratique d'œuvres qui soit bonne. Il y a peut-être un certain cynisme qui se développe chez nous, où on se dit, mais en fait, à quoi bon ? On ne peut plus rien faire de toute façon. À quoi bon aimer notre prochain ? À quoi bon chercher à partager l'Évangile autour de nous ? En fait, c'est plus si important que ça de travailler sur mon caractère alors que je côtoie plus beaucoup de monde. Mais on ne doit pas juste attendre que la vie revienne à la normale. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de tenir ferme, de continuer à avancer, de continuer à mettre notre foi à l'œuvre, de continuer à grandir. Et enfin, pour tenir ferme, il est question de s'engager dans les progrès de l'Évangile. On voit que Paul demande la prière au verset 1 du chapitre 3. Il dit au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur, c'est un synonyme pour parler de l'Évangile, la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Il demande la prière pour que l'Évangile se répande et soit glorifié comme il l'a été chez les Thessaloniciens. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'a produit l'Évangile chez ces chrétiens ? Ben, si on se souvient, ça a produit la foi, ça a produit l'amour, ça a produit des fruits remarquables. C'est vraiment super encourageant ce qui s'est passé chez ces Thessaloniciens quand l'Évangile leur a été annoncé. Ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, comme on l'avait vu il y a quelques semaines. Mais Paul regarde autour de lui et dit, mais ça ne s'arrête pas là. ça ne s'arrête pas là. Il voit tellement d'endroits où l'évangile n'a pas été annoncé. Tellement de gens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Et il dit à ces chrétiens, maintenant c'est à vous de prier pour que ce qui s'est passé chez vous puisse se passer dans d'autres endroits, puisse se passer ailleurs et que l'évangile se répande dans le monde. Littéralement ici, il est dit, priez pour nous afin que la parole du Seigneur court. L'évangile est décrit ici comme une personne qui doit courir dans plusieurs endroits, un peu comme un athlète avec la flamme olympique qui irait courir dans différentes villes pour faire connaître ces Jeux olympiques. Ben c'est ça le but de la vie de Paul, d'annoncer Christ là où il n'a jamais été annoncé. Et c'est une leçon pour ces chrétiens que Paul demande la prière pour ça, et également pour nous. Ce n'est pas le moment de rester assis et de croiser les bras, d'attendre passivement le retour de Jésus, d'abandonner nos efforts, de mettre notre vie chrétienne en pause. Mais c'est le moment d'œuvrer pour que l'évangile court, pour que l'évangile se répande encore et encore jusqu'aux extrémités de la terre. Comment œuvrer pour les progrès de l'évangile selon ces versets? De manière plus directe, c'est la prière qui est mise en avant ici. Les prières des Thessaloniciens vont permettre à l'évangile de se répandre au travers de Paul et ses amis qui vont proclamer cet évangile. On voit ici que la prière n'est pas vaine. On peut aujourd'hui participer au progrès de l'évangile dans le monde au travers de nos prières. C'est ce qu'on a eu l'occasion de faire cette semaine et il y a quelques semaines aussi en priant pour Anta qui part prochainement en Afrique de l'Ouest pour travailler parmi un peuple non atteint. C'est super qu'on ait pu prier pour elle. Il y a actuellement 7000 peuples qui sont non atteints dans le monde et en termes de population, ça représente 40% environ de la population mondiale. Juste pour clarifier un peu, quand on parle de peuple non atteint, il est question d'un peuple qui n'a pas accès à l'évangile. Et ce n'est pas juste qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile, c'est qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile et qu'ils n'ont aucun moyen d'entendre l'évangile. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens autour d'eux, il n'y a pas d'église, il n'y a personne qui peut leur parler de Jésus, il n'y a aucune connaissance même basique de qui Jésus est. Et on est appelé à prier pour que l'évangile court jusque dans ces peuples non atteints. C'est notre désir en tant que chrétien que ce qui s'est passé dans nos vies se passe dans la vie d'autres personnes et que cela progresse dans le monde entier. Ces versets nous montrent aussi que ça va se passer au travers de messagers. Paul dit « Priez pour nous afin que l'évangile se répandre. » C'est au travers d'eux que l'évangile va se répandre, va courir. C'est eux qui sont chargés de proclamer cet évangile. Alors on veut œuvrer pour les progrès de l'évangile par la prière, oui, mais aussi par la proclamation, en parlant de Jésus, en parlant de cet évangile autour de nous. Cette semaine, j'avais une sœur de l'église au téléphone qui me rappelait, mais même avec le confinement, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. On ne doit pas ne rien faire. Et elle avait raison. On ne doit pas ne rien faire. Que ce soit en confinement ou en dehors, on veut œuvrer pour que l'évangile court dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, ça va être coûteux, et c'est pour ça que Paul prie aussi, au verset 2, « afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants ». C'est le revers de la médaille, dans un sens. Plus l'évangile se répand, plus il y a d'opposants à cet évangile. Plus l'évangile avance, plus la persécution avance. Mais ça ne refroidit pas Paul dans son désir de faire connaître cet évangile et d'encourager ses chrétiens à y participer, à tenir ferme dans cela. Alors, vous êtes entre de bonnes mains. Donc tenez ferme. Voilà comment avoir une foi stable dans des temps troublés. Se rappeler qu'on est entre les bonnes mains de Dieu et ne pas abandonner. Continuer à avancer. Continuer à avancer en dépendant de Dieu. C'est frappant de réaliser que la plupart des versets de ce passage, ce sont soit des prières de Paul, des choses que Paul demande à Dieu pour ses chrétiens, soit des choses pour lesquelles Paul demande la prière. Et ça nous montre combien on est dépendant de Dieu. Pour avoir une foi stable dans les temps troublés. C'est de lui que tout vient. C'est lui qui peut nous faire tenir jusqu'au bout. Et quel beau verset, n'est-ce pas? Quel beau sujet de prière. On peut prendre ces versets et les prier pour nous-mêmes. Prier ces vérités pour nous-mêmes, pour qu'on les saisisse, pour qu'on en soit transformé. Et on peut prendre ces versets et les prier pour nos frères et sœurs dans l'Église, pour que ces vérités les transforment à leur tour, pour qu'ils réalisent qu'ils sont entre les bonnes mains de Dieu et qu'ils sont appelés à tenir ferme, pour qu'eux aussi puissent avoir une foi stable en étant troublés. Le verset 5 du chapitre 3 est une bonne chose à prier pour nous, et c'est avec ça qu'on va terminer, c'est un bon endroit où finir. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Voilà une belle prière pour tenir bon dans des temps troublés. Que nos cœurs soient dirigés vers la patience du Christ pour tenir bon jusqu'à son retour, pour continuer à avancer dans la vie chrétienne. Et que nos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu, vers ce Dieu qui nous a aimés à un tel point qu'il a donné son Fils sur la croix pour nous sauver. Vers ce Dieu qui nous a tant aimés, vers son amour infatigable, ce Dieu qui nous tient dans ses bonnes mains. Oui, prions pour avoir un cœur qui est captivé par Dieu, captivé par ses vérités, plutôt que captivé par nos soucis, nos problèmes, nos inquiétudes, l'incertitude des mois à venir. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Je vais prier pour terminer. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné une bonne espérance et un encouragement éternel. Merci, notre Dieu, parce que tu nous as aimés, parce qu'aujourd'hui nous sommes tes bien-aimés. Nous te prions, notre Dieu, que tu diriges nos cœurs vers ton amour, pour que l'on réalise à nouveau combien nous sommes entre tes bonnes mains, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Nous te prions qu'à la lumière de cela, nous ne soyons pas découragés, déprimés, en ayant envie de jeter l'éponge dans l'incertitude que l'on vit, mais que l'on ait une foi stable, mature, saine, sérieuse et qui se mette à l'œuvre, pour que l'Évangile progresse jusqu'aux extrémités de la terre. Et on prie ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.